Donc bon après-midi à tout le monde. Et donc merci aussi pour le repas. J'ai fait l'expérience de manger à la façon sénégalaise pour la première fois ce matin, cet après-midi. Et donc je vous en remercie. Je veux surtout remercier mes voisins, je ne connais pas leur nom, qui m'ont initié et qui m'ont aidé. Il y avait un frère qui a donc m'a donné un peu de poisson par-ci par-là, quelques légumes. Parce qu'ils étaient un peu loin de ma place. Donc, je remercie les frères et les sœurs. Ça m'a semblé comme une bonne expression de la communion fraternelle, quand nous mangeons donc d'un seul plat et nous partageons la nourriture, et les uns et les autres qui ne sont pas très compétents, disons, avec le repas. Donc, merci pour le repas. Merci pour la communion fraternelle. Merci pour l'expérience interculturelle, quoi. C'est bon. Et je me réjouis d'avoir participé, et encore demain, j'espère. Donc, nous considérons maintenant la victoire du Fils de Dieu. C'est en quelque sorte la partie la plus importante de ce que nous discutons pendant ces jours, ce que Jésus a fait pour nous et notre salut, et à l'égard de cette question de la guerre spirituelle. Mais avant d'arriver à cela, je veux brièvement seulement parler de la guerre spirituelle dans l'Ancien Testament. Ce matin, nous avons parlé de la chute et de la manière dont la guerre spirituelle est entrée dans notre monde humain. Mais il faut reconnaître que la guerre spirituelle continue tout le long de l'Ancien Testament. Elle s'est focalisée surtout sur le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël est au centre du plan de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham et a fait une alliance avec Abraham, il a promis, c'était la dernière promesse en Genèse 12, verset 3, il a promis qu'à travers Abraham, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et donc Abraham a été choisi, Dieu a fait une alliance avec Abraham, pas seulement pour le bien-être d'Abraham et de la nation qui allait sortir de lui, mais pour tout le monde. En choisissant Israël, Abraham, Dieu n'a pas abandonné les nations. Au contraire, Dieu a choisi Abraham pour qu'à travers lui, les nations seraient bénies. Et évidemment, nous savons, à la lumière de la venue de Jésus, que la bénédiction est précisément la venue de notre Sauveur. Un Sauveur serait né à travers la descendance, la nation d'Abraham. Et donc, Abraham est vraiment important, et cette promesse et sa réalisation dans la personne du Seigneur Jésus. Mais ça souligne l'importance d'Israël. Parce que Israël est comme le berceau sur la terre au sein duquel Dieu allait bénir le monde avec un sauveur et celui qui allait vaincre Satan et écraser la tête du serpent. Et donc la guerre est là autour d'Israël. C'est la guerre spirituelle dans la vie d'Israël. Et de trois façons, je veux souligner brièvement trois façons. Et seulement, et je crois que nous ne pensons pas que ça serait une guerre. Normalement, on ne dirait pas que ça c'est une partie de la guerre de Dieu, mais c'est une partie de sa guerre spirituelle. Et c'est simplement la révélation. Dieu se révèle à Abraham, et puis à la nation d'Israël, à travers ceux qui allaient suivre Abraham, comme Isaac et Jacob, et puis les hommes comme Moïse, les grands prophètes, Élie, Élisée, à travers l'histoire d'Israël, et ainsi de suite. Dieu est en train de se révéler. Et sa révélation de sa propre personne et de ses propres œuvres est fondamentale pour la guerre spirituelle parce que le diable avait menti concernant Dieu. Il avait dit, vous vous rappelez, que Dieu est un Dieu de mensonge. Il ne dit pas la vérité. Que Dieu est un Dieu injuste et avec lui, il n'y aura pas de condamnation. On peut faire ce qu'on veut, pas de conséquences. C'est ce que le serpent a dit. Le serpent a dit que Dieu n'est pas bon. Il prive les hommes et les femmes des bénédictions qu'ils devraient avoir. Et donc Dieu est un Dieu d'interdiction, un Dieu qui défend les choses, qui empêche les gens d'arriver à leur propre épanouissement. Et il a dit que c'est mieux d'être séparé de Dieu, c'est mieux de quitter Dieu, donc de faire vos propres commandements, de décider votre propre vie, au lieu de suivre la voie de Dieu. Et Dieu se révèle pour démasquer les mensonges de Satan, pour dire non, ce n'est pas vrai, voilà qui je suis. Et donc il se manifeste pour que nous puissions connaître la réalité, la vérité de Dieu. Et qu'il est un Dieu de grâce et de miséricorde et de bonté. Et on voit ça dans la vie d'Israël. Dieu a béni Israël pour montrer la bénédiction qu'un peuple puisse avoir, un peuple qui est en relation avec Dieu, qui est entré dans une alliance avec Dieu. Dieu aussi manifeste sa justice. Et donc, deuxième chose qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce sont les jugements. Le diable avait dit, le serpent avait dit, si tu mangeras du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il n'y a pas de jugement. Et donc, à travers l'Ancien Testament, nous voyons des jugements pour le péché des hommes et des femmes. Nous voyons le déluge, par exemple, à l'époque de Noé. Nous voyons le jugement de Babel, quand les gens voulaient se faire un nom. Ils voulaient se vanter et aller dans un sens contraire à la volonté de Dieu. Et Dieu les a éparpillés et confondus leur nom. Nous voyons le jugement là. Nous voyons le jugement de Sodome et Gomorre, qui étaient coupables d'une méchanceté affreuse. Et Dieu les a jugés. Nous voyons le jugement de l'Égypte qui a persécuté le peuple de Dieu, a voulu même exterminer Israël. C'est un véritable crime de génocide qu'ils essaient de perpétrer. Nous voyons ça dans le jugement d'Assyrie, de Babylone, et même d'Israël, son peuple, quand il était infidèle. Et donc Dieu se révèle, il dit, voilà ce qui arrive quand les hommes et les femmes pêchent, quand ils se révoltent contre moi. Il y a le jugement. On ne peut pas dire, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de conséquences. Il y a des conséquences quand nous refusons la volonté de notre Créateur. Mais puis aussi, encore, il y a le salut. Et Dieu sauve son peuple. Il manifeste sa grâce. Et il sauve son peuple et les préserve à travers l'histoire de l'Ancien Testament. Et ça, c'est une chose très importante que nous voyons à travers tout l'Ancien Testament, que Dieu lutte pour la préservation de son peuple. Parce que ce peuple, c'est le berceau de salut. Le Seigneur Jésus-Christ va venir de ce peuple. Le Seigneur Jésus-Christ va sortir de ce peuple. Et donc, Satan n'est pas souvent mentionné dans l'Ancien Testament. Mais nous voyons la guerre spirituelle parce que le peuple d'Israël a de la peine à survivre. Il y a des efforts de les exterminer, dont nous avons déjà mentionné les Égyptiens. Et ce que les Égyptiens voulaient faire avec le peuple d'Israël, comme ils voulaient tuer tous les petits garçons. S'il n'y a pas de petits garçons, toutes les filles vont finalement se marier avec les Égyptiens, il n'y aurait plus d'Israélites. Il y aurait plutôt seulement des Égyptiens. C'est un effort d'éliminer Israël. Beaucoup plus tard, à l'époque de l'Empire perse, quand Esther était la reine, la femme de l'empereur de Perse, il y avait encore un effort d'exterminer, d'éliminer le peuple d'Israël. Nous voyons les attaques sur Israël à plusieurs moments dans leur histoire, les Philistins par exemple, plus tard les Babyloniens, les Assyriens et ainsi de suite, les attaques sur le peuple. Et Dieu les défend, il les protège physiquement. Mais aussi, il y a des moments quand Israël risque de s'assimiler avec les autres nations. Il risque de faire des mariages avec les filles et les garçons des autres nations et donc de perdre leur identité comme le peuple de Dieu, saint, mis à part pour lui, et de participer dans la méchanceté des autres nations, dans leur coutume, leur culture, leur fausse adoration, leur fausse religion, et perdre leur identité. Et parfois, Dieu intervient pour empêcher cela. Il y a un moment, par exemple, vers la fin du livre de Juges, quand il y a des attaques des Philistins sur le peuple de Juda, c'est une des tribus d'Israël, comme vous le savez, il y a des attaques et le peuple de Juda ne réagit pas. Ils acceptent ce qui se fait, ce qui est en train de se faire. Et donc, ils ne voient pas l'importance de résister aux Philistins. Et le rôle de Samson, dans l'histoire un peu bizarre de Samson, c'est précisément d'empêcher l'assimilation du peuple de Dieu avec les Philistins. Parce que le danger, c'est que le peuple de Dieu devient finalement comme tous les autres peuples du monde. Et à ce point-là, le plan de salut sera frustré. Et donc Dieu agit pour préserver son peuple. Et tout le long de l'histoire d'Israël, Dieu envoie des prophètes pour annoncer sa parole et surtout pour protéger au moins une reste du peuple. Même quand le peuple en général semble s'égarer et de perdre la voie et d'être infidèle et s'écarter du Seigneur, il y a des prophètes qui annoncent la parole de Dieu. Il y a ceux qui restent fidèles. Et donc, à l'époque de Élie, et je crois que Andrew a mentionné ça ce matin, à l'époque de Élie, il y avait un moment quand Élie, le prophète, s'est découragé et il a dit à Dieu, moi, je suis le seul qui reste. Tout le monde t'a abandonné. Je suis le seul qui reste. Ça ne vaut plus la peine d'être un prophète. C'est mieux de prendre ma vie. Que ma vie se termine ici et maintenant. Et Dieu dit, non, ce n'est pas vrai. J'ai réservé 7000 personnes qui ne sont pas encore agenouillées devant les Baals, les faux dieux. Parce qu'à travers le prophète et les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu préserve un peuple. Ce n'est pas toute la nation. Peut-être la nation en général devient infidèle, mais il y a ceux qui restent fidèles. Et c'est Dieu qui les garde, c'est Dieu qui protège. De sorte que quand le Seigneur Jésus vient, il y a les fidèles en Israël. Il y a ceux qui l'accueillent. Tout à sa naissance, il y a les gens comme Marie et Joseph, et les parents de Jean-Baptiste, et les deux dans le synagogue, Simeon et Anna, qui l'accueillent quand il arrive, parce qu'ils reconnaissent, c'est ça la réalisation du plan de Dieu. Il y a des fidèles. Et tout cela parce que Dieu lutte, il combat. C'est sa guerre spirituelle. Préserver son peuple, juger la méchanceté, manifester par sa révélation sa propre justice et amour, répandre et grâce envers ceux qui l'aiment. Il est en train de lutter pour le salut des siens et pour le jugement de ceux qui se posent à lui. Donc, il faut voir l'Ancien Testament de cette optique. Il y a une guerre spirituelle. Seulement un autre point sur cela, ça m'arrive à l'esprit. L'histoire de David et Goliath. Nous avons tendance à voir ça comme l'histoire d'un homme de foi, petit garçon de foi, et un grand géant, et comment il est-il courageux. Mais ce n'est pas seulement ça. Ici, c'est le Dieu d'Israël qui protège son peuple. David a lutté au nom de Dieu. David croyait que Dieu était le Dieu vivant d'Israël, actif, capable de vaincre un Goliath, même à travers les efforts d'un garçon. Et il avait raison, mais c'est Dieu qui lutte. C'est Dieu qui est là. Ça, c'est toujours la guerre de Dieu, la guerre spirituelle de Dieu qui protège son peuple et qui manifeste en même temps sa gloire et qui détruit ses ennemis. Bon, nous tournons maintenant au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est le guerrier divin qui s'incarne. C'est Dieu qui prend notre chair humaine et entre dans notre histoire pour nous sauver. C'est l'événement le plus étonnant de l'histoire. Les historiens voient certains événements comme vraiment de grands événements. Il n'y a pas d'événement plus grand que ceci. Quand le Seigneur Jésus, le Fils éternel de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, prend notre chair et s'humilie pour entrer dans notre monde, devenir comme nous, sauf le péché, et mourir à notre place, et être ressuscité aussi pour nous. Et donc ça, c'est le moment le plus important. Et Jésus vient dans notre monde pour combattre le bon combat, pour la guerre spirituelle. Et donc, Jean, son apôtre, Jean, en 1 Jean 3, verset 8, dit, Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, combattre ses ennemis et les réduire en néant. Et puis, Paul dit concernant Jésus qu'il est venu pour sauver un peuple de la captivité de Satan, pour nous sauver de la domination des ténèbres et nous transférer dans le royaume de son Fils. Ça, c'est Colossiens 1, verset 13 à 14. Et donc, il est venu pour juger et pour sauver. Ça, c'est la guerre spirituelle. Juger et sauver. C'est pour ça qu'il est venu. Maintenant, nous allons voir ça sur six titres. Et donc, je vais essayer d'être un peu expéditif pour ne pas vous retenir trop longtemps. Mais tous ces points sont importants, mais certains sont très, très importants. Donc, première chose, sont les tentations du désert. Je crois que dans sa vie, dans son ministère, c'est la première fois que nous voyons la guerre spirituelle dans la vie de Jésus. Et Matthieu, Marc et Luc, tous contiennent ce narratif des tentations du diable. Et en racontant cet événement, il nous rappelle que pas seulement cet événement, mais tout le ministère de Jésus a été mené dans le contexte de guerre spirituelle. C'était toute une guerre spirituelle avec les ennemis de Dieu et pour le rachat de son peuple. Mais nous focalisons pour le moment sur les tentations. D'abord, la nature des tentations. Satan attaque surtout sur deux choses. Première chose, c'est la confiance et la foi de Jésus dans son identité comme fils de Dieu. Peu avant les tentations, Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau, les cieux étaient ouverts, la colombe est descendue, et il y avait une voix du ciel qui disait: ceci est mon fils bien-aimé, en qui est tout mon plaisir. N'est-ce pas? Ceci est mon fils, le fils de Dieu. Et donc Satan vient, et dans deux des trois tentations, il dit: si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, c'est une tentation. Il veut semer la doute. Est-ce que je suis le fils de Dieu? Où est l'évidence pour cela? C'est comme si il est là, il est un homme, il a été baptisé. Et Satan dit: bon, si tu es le fils de Dieu, prenez ces pierres et transformez-les en pain pour que vous puissiez manger. Et puis il amène au temple: si tu es le fils de Dieu, donc jetez-vous là-bas. Et il va envoyer ses anges. Testez, prouvez si vous êtes vraiment le fils de Dieu. Donc il veut semer le doute. Et l'autre chose, c'est qu'il veut détourner Jésus du chemin de la souffrance. Le Seigneur est venu comme celui qui va nous sauver du péché par le sacrifice de son corps. Il va verser son sang pour nous. C'est un chemin de souffrance. Et pas seulement à la croix. Toute sa vie était une vie de souffrance. Il était un homme de souffrance. Esaïe parle de lui. C'était un homme de souffrance. Et c'était un homme qui connaissait donc les douleurs. Et donc Satan dit: non, vous ne devrez pas souffrir de faim. Utilisez votre puissance pour vous manger. Vous ne devrez pas donc aller par le chemin de souffrance. Jetez-vous du temple et impressionnez les gens. Ou bien adorez-moi. Et je vous donnerai ce que vous cherchez dans ce monde. Et donc, il attaque la personne de Jésus et il attaque l'œuvre que Jésus devrait faire. Il reste des doutes sur l'identité de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, et il cherchait à le dévier de la voie de souffrance que Jésus devrait suivre pour notre salut. Notez l'initiateur des tentations. Je crois que nous sommes habitués à penser que l'initiateur des tentations, c'est Satan. Mais ce n'est pas le cas. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert. Et en Matthieu surtout, Matthieu dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. C'était l'intention de Dieu que son fils soit tenté. C'était la volonté de Dieu. Ouais, ce n'est pas seulement Satan. Satan, évidemment, il a profité de l'occasion, l'opportunité lui donnée. Mais c'était la volonté de Dieu que le Seigneur Jésus soit tenté de cette façon. Et je crois que nous pouvons savoir pourquoi. Quand nous réfléchissons sur la comparaison avec Adam et Jésus, Adam était dans un jardin, il a été tenté par Satan, il est tombé. Jésus est dans un désert, et maintenant dans le désert, il doit aussi faire face à un conflit avec Satan. Mais là où Adam a échoué, Jésus a vaincu. Notez la différence aussi entre Eden et le désert. Eden, c'est le monde dans sa bonté, sa beauté, avec, disons, tous les fruits, les arbres, et ainsi de suite. Qu'est-ce que le péché a fait? Le péché a fait de ce monde un désert. Et toutes ces bonnes choses que Dieu avait données sont en grande mesure détruites. Et donc maintenant, dans le désert, dans des conditions les moins favorables possibles, Jésus doit faire face au conflit avec Satan. Mais il a vaincu pour nous. C'est ça ce qui est essentiel. Il a vaincu comme le deuxième Adam pour nous. Il a aussi vaincu comme un nouvel Israël, parce que Israël était dans un désert pour 40 années. Jésus est dans un désert pour 40 jours. Et Israël a été aussi tenté, testé dans le désert. Et comment est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont désobéi. Ils se sont grondés, ils n'étaient pas contents, ils ont demandé à Moïse de les faire rentrer en Égypte. Ils ont dit, les choses étaient mieux en Égypte, pourquoi est-ce que nous sommes ici dans le désert? Vous nous avez amenés ici pour nous faire mourir, c'est ça? Et donc toujours les plaintes, les difficultés, la tentation, au moment où ils devraient être en Israël, ils ont refusé. Au moment où Moïse était sur la montagne, ils ont commis l'adultère et l'idolâtrie. C'était affreux, mais voilà Jésus dans le désert, comme une nouvelle Israël. Et il est testé aussi, il est trouvé, tenté, mais il a vaincu comme cette nouvelle Israël. Et donc, c'était la volonté de Dieu que son fils soit tenté, parce qu'il est tenté, comme Adam a été tenté, comme le représentant de son peuple. Et son peuple, c'est nous. Et donc, son obéissance dans le désert devient notre obéissance. Si Adam avait obéi, il y aurait eu une récompense pour son obéissance. Et cette obéissance aurait été notre obéissance qui nous aurait donné l'accès à l'arbre de la vie. Maintenant, Jésus a réussi là où Adam a échoué. Et il a gagné la récompense pour nous. Notre salut n'est pas seulement que nous sommes pardonnés des péchés, mais aussi que nous avons la justice et l'obéissance de Jésus, par lequel nous avons droit à l'héritage que Jésus a gagné pour nous. Donc, c'est Dieu l'initiateur des tentations, et voilà les buts de tentation pour que Jésus soit deuxième Adam, nouvel Israël pour son peuple. Deuxièmement, considérons l'expulsion des démons. On va voir ceci assez rapidement. D'abord, je veux qu'on voit très brièvement la nature remarquable de ce que Jésus a fait par rapport aux démons. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui réussissaient à expulser des démons. Il y a un peu de littérature de l'époque, il y a un ou deux incidents, mais très peu. Mais dans les évangiles, nous trouvons que ça c'était un aspect constant du ministère de Jésus. Constamment, il chasse des démons, il les expulse, il délivre des personnes. Et donc, c'était quelque chose pour lequel il était très bien connu. À cette époque, quand les gens voulaient expulser des démons, ils citaient, ils invoquaient le nom d'une puissance, peut-être d'un dieu ou d'un esprit considéré comme un esprit puissant. Pendant le vivant de Jésus, de son vivant, il y avait des gens qui invoquaient le nom de Jésus. Pas seulement ses disciples, mais ceux qui ne suivaient pas avec les disciples. Parce qu'il y a une occasion quand Jacques et Jean sont venus auprès de Jésus, ils ont dit, nous avons écouté un homme qui expulsait les démons à son nom. Et nous l'avons dit d'arrêter. Et Jésus a dit, non, non, ne dis pas ça. Mais vous voyez, même de son vivant et après sa mort, il y avait des gens, pas des chrétiens, qui citaient le nom de Jésus parce qu'ils savaient c'était non puissant. Il le citait d'une mauvaise façon, mais quand même, il connaissait que c'était quelque chose que Jésus faisait et un domaine où il était puissant. Deuxième chose qui fait que ces expulsions des démons étaient extraordinaires, c'est qu'il a simplement chassé les démons avec un mot. Il y a un verset en Matthieu 8, 16, où on dit qu'il a chassé les esprits par sa parole, seulement sa parole. Il a dit, sortez. C'est tout, sortez. Maintenant, les exorcistes de l'époque, et on n'utilise pas le mot exorciste pour Jésus parce que son ministère est si extraordinaire, mais les exorcistes de l'époque, ils employaient toutes sortes de ruses pour chasser les démons. Donc il y avait des mots magiques, il y avait certaines procédures, des rites, et ainsi de suite. Ils invoquaient les noms des esprits, ils cherchaient à lier le démon, connaissant son nom, et donc je te lis au nom de tel ou tel. Jésus ne faisait pas ces choses. Toutes ces histoires, Jésus ne faisait pas. Il chassait les démons par sa parole. Sortez, c'est tout. Et au lieu de faire parler les démons pour connaître leur nom, Jésus faisait taire les démons. Parce que quand les démons parlaient, les démons le confessaient. Tu es le Saint de Dieu, le Fils de Dieu vivant, ainsi de suite. Et donc, c'était tout à fait extraordinaire. Maintenant, la question, c'est la signification. Qu'est-ce que ça voulait dire que Jésus chassait les démons? Et vous savez, il y a cette histoire. Quand les ennemis de Jésus disaient, c'est pas le pouvoir de Béelzéboul qu'il chasse les démons. Maintenant, la chose, ce qu'il dit nous montre deux ou trois choses qu'on va brièvement noter. Première chose, c'est que même les ennemis de Jésus ne pouvaient pas nier ce qu'il faisait. Ils savaient que Jésus chassait les démons et que sa parole était efficace. Ils savaient ça. Ils ne pouvaient pas dire, non, ce sont des trucs, c'est donc un trompe-l'œil et ainsi de suite. Non, c'est une réalité. On pouvait voir les gens libérés. Vous savez, l'homme qui avait la légion de démons. Et puis, les gens l'ont trouvé délivré. Il était assis, il était vêtu, il parlait normalement. Tout à fait transformé. On ne pouvait pas nier ça. Et donc, ils disent, ce n'est pas le pouvoir d'un démon qui fait ça. Effectivement, ils accusent Jésus d'être un sorcier. Vous faites de la sorcellerie. Vous avez le pouvoir d'un démon qui vous donne cette puissance. Même il avait accusé d'être possédé par un démon. Il y a un démon en vous qui vous permet de faire des choses. Et Jésus a montré que l'accusation, c'était stupide, c'était fou. Parce qu'il dit, ce que je sens, ce que je chasse, sont précisément les agents de Satan. Ce sont les démons. Qui est le roi des démons? C'est Satan. Est-ce que Satan veut permettre à ce que ces agents soient chassés à son nom? Est-ce que ça c'est possible? Que je prends le nom de Satan pour chasser les agents, les soldats, les militaires de Satan, c'est impossible. Il a montré que l'accusation est ridicule. Mais une autre chose, et nous allons revenir à ceci demain, c'est que Jésus et les ennemis ont reconnu qu'il y a seulement deux puissances par lesquelles de telles choses extraordinaires pourraient se faire. Il y a la puissance de Béelzéboul. Et Jésus a dit, ça ce n'est pas possible. Et Jésus a dit, si ce n'est pas Béelzéboul, mais si c'est par le pouvoir du Saint-Esprit, sachez que le royaume de Dieu est présent parmi vous. Évidemment, ce qu'ils disent, c'est que c'est impossible que ce soit Satan, la puissance que j'invoque Satan pour chasser les agents de Satan. Ça doit être le Saint-Esprit. Et ça veut dire qu'en moi, Dieu est présent dans sa puissance pour réduire en néant ses ennemis et pour sauver son peuple. En d'autres termes, il dit, ici c'est la guerre de Dieu. Dieu est en train d'agir pour sauver et pour juger. Dans l'évangile selon Luc, Jésus ne fait pas référence au Saint-Esprit. Il dit plutôt, si c'est le doigt de Dieu, le doigt de Dieu. Ça va? Le doigt de Dieu. Si c'est le doigt, le finger, en anglais, le finger, le doigt de Dieu. Si c'est le doigt de Dieu. Et il cite Exode. En Exode, à un certain moment, les magiciens d'Égypte qui cherchaient à répéter les miracles que Moïse faisait, ils ne pouvaient plus le faire. Ils ont dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est maintenant le droit de Dieu. Nous, les magiciens, nous ne pouvons pas faire de telles choses. Ça doit être Dieu. C'est son droit qui est actif. Et Jésus dit, en moi, le droit de Dieu est actif. Et donc, il suggère, ici, c'est un deuxième exode. Il y avait le premier exode. Quand les gens sont sortis de l'Égypte et les ennemis ont été vaincus. Maintenant, c'est un deuxième, un nouvel exode. Et moi, je le fais. Et voilà l'évidence. C'est le fait que je chasse les démons des victimes de Satan. Donc, c'est très important. En Jésus, l'évidence de la présence du royaume de Dieu, de la guerre spirituelle de Dieu, c'est l'expulsion des démons. Troisième chose que Jésus fait dans sa guerre spirituelle, il prêche la vérité. Il est venu pour annoncer la vérité. Quand il était devant Pilate, lors de son procès, à la fin de sa vie terrestre, il dit ceci, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et nous avons déjà vu, je crois, que la révélation de la vérité, la proclamation de la vérité est centrale à la guerre spirituelle. Et Andrew a mentionné ça aussi ce matin. Comment est-ce que nous nous engageons dans la guerre spirituelle? C'est surtout la prédication de la parole, parce que c'est la vérité qui démasque les mensonges du diable. Et donc Jésus est venu dans le monde pour proclamer la vérité. Même pas seulement pour proclamer la vérité, mais pour être la vérité. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Et quand il est entré dans le monde, et Jean 1,14 parle de la parole qui a été faite de chair. Et nous avons vu sa gloire. La gloire comme le Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Il y a la vérité en lui. Et donc, dans sa personne, il y a la vérité. Dans sa personne, il révèle Dieu parce qu'il est Dieu. Et à travers tout l'Ancien Testament, il y a des prophètes qui annoncent des messages de Dieu, qui parlent de la nature de Dieu, qui annoncent le jugement, le salut de Dieu. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui est plus qu'un prophète, qui n'annonce pas seulement, mais qui est la vérité de Dieu. On voit Dieu en lui. On voit la réalité. Les mensonges du diable sont démasqués dans une personne visible et ses œuvres et ses paroles et tout cela. Et donc Jésus est venu pour prêcher la vérité. Et lui il a dit ceci, c'est Jean 8, 31-32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira de quoi? Ça nous affranchira du mensonge et du péché que le mensonge produit, du mensonge du diable, de l'esclavage du diable. Jésus est venu pour annoncer la vérité, pour que nous soyons libérés des mensonges, pour connaître la vérité concernant Dieu et mettre notre foi en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il annonce la vérité. C'est énormément important pour nous. Parce que comme on a dit ce matin, dans ce premier atelier, la prédication, la parole de Dieu, la vérité, c'est le moyen que Dieu emploie pour sauver son peuple. C'est ça. Et pas seulement pour les sauver, mais puis pour les édifier, pour qu'ils grandissent dans la foi, et pour qu'ils deviennent de plus en plus comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, essentiel. Parce que si ce n'est pas la vérité, ce sont les mensonges du diable. Nous combattons les ténèbres et les mensonges des ténèbres avec la vérité qui est en Christ. Et ça, c'est notre unique arme offensive pour attaquer le diable. Nous déclarons la parole de Dieu dans toute sa richesse pour que les hommes et les femmes puissent être confrontés par le Seigneur Jésus dans sa beauté. Et dans sa grâce et sa puissance. Quatrième chose, et ici c'est la plus grande chose que nous allons discuter, et c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et ici nous allons considérer le verset qui était lu il y a quelques moments, Colossiens 2, 13 à 14. Et dans ces versets, Paul résume l'évangile. Il y a un bref résumé de l'évangile. D'abord, il dit le problème de l'humanité. Quel était notre problème? C'est nos fautes et l'incirconcision de notre chair. Les fautes, ce sont les actes pécheurs que nous commettons. L'incirconcision de notre chair, c'est la nature pécheresse qui produit ces péchés. Donc nous avons un double problème. Nous faisons de mauvaises choses, et ces mauvaises choses sortent de nature, d'un cœur qui est déchu, qui est pécheur. Et donc Jésus est venu pour résoudre ce problème. Dieu nous fait grâce pour nos péchés. Et puis au verset 14, l'apôtre Paul explique comment Dieu peut nous pardonner. Comment est-ce qu'il nous pardonne? Et il utilise trois métaphores. Maintenant, les métaphores ne sont pas tellement claires dans la traduction française, mais je vais vous dire le sens des métaphores. Première métaphore, c'est que Dieu a effacé nos péchés. Et il y a une image ici d'une manière d'écrire à l'époque. Parfois, on avait de petites tablettes, et sur la tablette, il y avait le signe qui était mort. Ça va? Et donc, vous pouvez écrire des mots dans le signe. Mais si vous avez fait une erreur, vous pouvez seulement effacer ce que vous avez écrit et recommencer de nouveau. Et Paul dit, c'est ce que Dieu a fait pour nos péchés. Il les a seulement effacés, comme s'ils n'ont jamais été. Il les a effacés. Ils ont disparu. Le péché n'est plus là. Deuxième chose, Paul dit, c'est que Dieu a enlevé notre péché du milieu. Et l'idée, c'est que le péché était la chose surtout qui nous définissait. On peut dire, quel est cet homme, quelle est cette femme? Et on peut dire, bon, c'est un mari, c'est un père, c'est un ouvrier, c'est un menuisier, c'est un homme intelligent, c'est un homme très capable, très sportif, ainsi de suite. Mais la chose qui nous définit surtout, c'est que nous sommes des pécheurs et nous sommes sous le jugement de Dieu. Et ce que Paul dit, c'est que cette chose qui était vraiment au milieu, qui nous définissait, Dieu l'a pris et l'a enlevé. Ce n'est plus là. Il a enlevé nos péchés. Ils ne sont plus là. Mais la troisième chose, et ici Paul emploie une métaphore qui est très frappante. Il emploie la métaphore d'une reconnaissance de dette. Je crois que nous sommes tous habitués à l'idée de dette quand vous prêtez de l'argent auprès de quelqu'un. Et peut-être celui qui vous emprunte l'argent, il vous demande d'écrire une reconnaissance de dette. Et quand vous allez écrire « moi », et si vous êtes « moi », vous allez écrire « moi », Keith Ferdinando, « je reconnais avoir pris le montant de tel auprès de tel à rembourser, disons, le 25 février 2025. » Ça va? C'est un document, reconnaissance de dette, signé par le débiteur. Et donc, Paul dit, notre péché, c'est comme un tel document. Et ce document, c'est dur, c'est hostile envers nous, ça nous condamne, nous sommes des débiteurs, nous devons payer quelque chose. La reconnaissance de dette exige un règlement de dette, mais c'est au-delà de notre possibilité. Et donc, Dieu a pris la reconnaissance de la dette de nos péchés et l'a clouée à la croix. Et ça, c'est la métaphore la plus claire, que Dieu a pris notre dette, il l'a clouée à la croix, parce que c'est Jésus qui paye. La dette est une dette que nous devons à Dieu. Mais Dieu paye la dette dans la personne de son Fils, cloué à une croix. Et donc la dette n'est plus là. Et nous sommes libérés de cette dette. Donc, c'est ça la première partie de ce que Paul dit. Mais puis, tout à coup, au verset 15, il semble parler de quelque chose qui est tout autre. Il commence à parler des dominations et des autorités. Donc, dans ma version de la Bible française, il parle des... il a dépouillé les dominations et les autorités. Et ici, il parle des puissances surnaturelles de méchanceté, des démons, des anges de Satan. Il parle de Satan et des forces des ténèbres, ça, dans ce verset. Et il parle de la manière dont Jésus les a vaincus. Et il dit encore, il y a trois métaphores qu'il emploie pour parler de ça. D'abord, il dit que Dieu les a désarmés. Ils étaient armés. Ils avaient des armes pour lutter contre le peuple de Dieu. Ils n'ont plus ces armes. Ils ont été désarmés. C'est comme une armée qui a été vaincue dans une bataille. Et quand ils sont vaincus, ils demandent la paix. Et l'ennemi dit, bon, on va vous donner la paix, mais il faut se rendre toutes vos armes en nous. Nous allons prendre vos armes pour que vous ne puissiez pas recommencer la bataille. Et donc, Paul dit ici, c'est ce que Dieu a fait. Il a désarmé les puissances surnaturelles de méchanceté. Deuxièmement, il les a exposées publiquement. Ce qu'il a fait n'est pas quelque chose qu'il a fait en privé. C'est quelque chose qui est connu dans le cosmos en général, que les puissances des ténèbres ont été vaincues. Ils ont été humiliés. Et il y a une ironie ici, parce qu'à la croix, Jésus a été humilié. Il a souffert une mort humiliante. Il a été cloué nu à la croix. Il était humilié dans sa mort. Mais Paul dit, non, ce n'est pas Jésus qui a été humilié et exposé publiquement. Ce sont les puissances, les dominations, Satan et les forces surnaturelles des ténèbres. Ce sont eux, elles, qui ont été exposées. Troisièmement, il les a conduits comme des ennemis vaincus dans son cortège triomphal. Et l'image ici, c'est que quand un général romain remportait une grande victoire contre les ennemis de Rome, il avait droit à un cortège triomphal. Il pouvait aller dans la ville de Rome avec son armée, avec ses captifs, et les captifs étaient nous, ils étaient enchaînés, et on les amenait en lieu d'exécution où ils étaient mis à mort. Et donc Paul dit, c'est comme ça aussi. Satan et les forces des ténèbres sont totalement vaincus. Maintenant, la question c'est, comment est-ce que verset 15 suit verset 14? Il a parlé au verset 14 du pardon de nos péchés et du fait que Dieu les a cloués à la croix. Verset 15, il parle de la défaite des dominations et autorités. Comment est-ce que verset 14 nous amène à verset 15? Il y a un peu de détournement ici. Quand nous lisons la parole, nous devons toujours nous poser la question pourquoi? Pourquoi est-ce que verset 14, 15 est ici? Comment est-ce que ça ajoute à ce qu'il vient de dire? Quel est le lien entre 14 et 15? C'est une question importante et toujours importante dans notre lecture de la parole de Dieu, n'importe où. Et la réponse, je crois, doit être ceci, qu'en clouant la reconnaissance de notre dette du péché à la croix, par cet acte, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités de leur puissance sur nous. Il les a vaincus par son sacrifice pour nos péchés. Et ce que ça veut dire, c'est que la puissance de Satan sur les hommes et les femmes réside dans le fait qu'ils sont des pécheurs. C'est le péché qui leur donne leur puissance sur nous. Dieu ne leur a pas donné de la puissance sur nous. C'est nous, par notre péché, qui se sont soumis à leur autorité et à leur tyrannie. Et quand le pouvoir de péché est brisé par l'œuvre de Satan, donc à ce moment-là, les dominations, les autorités, Satan, les forces surnaturelles de méchanceté sont désarmées, sont dépouillées de ce qui leur donnait leur force et leur puissance. Et nous sommes libérés. Donc, ce que le texte nous enseigne, c'est que sur la croix, Jésus a accompli deux choses. Il a accompli d'abord le pardon de nos péchés, parce qu'il a rendu une expiation, une propitiation pour nos péchés. Et donc, le problème du péché est effacé par la mort de Jésus. Mais en même temps, par cet acte, il nous a délivrés de la puissance de Satan. Parce que Satan est parasite sur le péché. Vous savez, il y a des choses qui entrent dans nos cœurs et qui sont des parasites. Parfois, on les trouve dans les intestins, ainsi de suite. Ils sont en train de manger notre sang ou quelque chose. Les moustiques font ça aussi. Ils mangent, n'est-ce pas, le sang de notre corps. C'est parasite sur les êtres humains. Satan est parasite sur nos péchés. C'est ça ce qui lui donne la force sur les êtres humains. Et quand la puissance de péché est cassée, la puissance de Satan est également cassée. Et donc ailleurs, en Romains 8, verset 33, l'apôtre Paul dit ceci, « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? » Et normalement, c'est Satan qui accuse. C'est Satan qui veut que nous soyons condamnés. Mais Satan ne peut plus nous accuser parce que les péchés ont été pardonnés. Jésus a effacé la reconnaissance de dette qui témoignait contre nous. Il n'a plus rien de quoi nous accuser. Et c'est ça la gloire de la croix. Que la croix vainque le péché, la croix vainque Satan. C'est à ce moment que Jésus écrase la tête du serpent. C'est le moment culminant de la guerre spirituelle. Mais ce n'est pas la fin. Donc il y a deux autres choses que nous devons remarquer et j'essaierai d'être bref. Cinquième chose, donc, Jésus est exalté dans la gloire du Seigneur. Une chose sur laquelle le Nouveau Testament insiste beaucoup, c'est l'autorité de Jésus, qu'il est le Seigneur. Il y a un verset de l'Ancien Testament, c'est psaume 110, verset 1. Et voici les mots de ce psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est Dieu qui parle à Jésus. Assieds-toi à ma droite. Et pour l'Église primitive, c'est là où Jésus est. Il est assis à la droite de Dieu. Il est exalté dans la gloire, il est monté au ciel, et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Il a été intronisé à côté de Dieu. Il a toute puissance. Et avec cette puissance, il utilise cette puissance pour l'Église et pour la continuation de la guerre spirituelle. Et il fait trois choses de cette position. D'abord, il bâtit son Église. Je crois que nous tous nous connaissons ce qu'on appelle la Grande Commission. Quand Jésus dit à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. » Et cette commission, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », est fondée dans l'affirmation, « Toute autorité m'a été donnée. » Jésus a toute autorité. Il est assis à la droite de Dieu. Toute autorité lui a été donnée. Avec cette autorité, il bâtit son Église. C'est ce qu'il fait maintenant. Avec son autorité, il bâtit son Église. Et donc, si nous sommes des prédicateurs des bonnes nouvelles, et j'espère que nous sommes tous des prédicateurs des bonnes nouvelles d'une manière ou d'une autre, nous allons avec l'autorité de Jésus, parce que Jésus bâtit son Église. Et si les gens disent, pourquoi est-ce que vous prêchez cela? C'est parce que Jésus a toute autorité, et nous agissons à son nom. Prêchez les bonnes nouvelles aux nations que Satan avait égarées, mais sur qui Jésus a maintenant toute autorité. Et nous annonçons les bonnes nouvelles, que les nations peuvent être sauvées à travers le Seigneur Jésus. Deuxièmement, Jésus protège son Église. Il garde son Église. C'est en Éphésiens, chapitre 1, verset 20 à 21, et nous avons, je crois, mentionné ceci hier. Mais Paul dit que Jésus est assis à la droite de Dieu encore, mais il ajoute dans les lettres de Dieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Ça veut dire Jésus est exalté, loin au-dessus de toute puissance surnaturelle méchante. Il est loin au-dessus d'eux. Il est exalté loin au-dessus. Et Paul utilise un langage qui n'est pas normal dans cette partie de la lettre pour souligner l'exaltation. C'est comme la super exaltation de Jésus. De sorte que toutes choses sont soumises à son autorité. Et puis, au verset 2, Paul poursuit et il dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et donc ce que Paul dit, c'est que là où Jésus est, assis dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute autorité et domination, nous sommes en lui. En sécurité, en lui, aussi assis dans les lieux célestes, en Jésus, loin au-dessus de toute autorité. Et donc nous avons une sécurité en lui. Il protège son peuple. Nous avons la même chose exprimée ailleurs, dans l'évangile selon Jean chapitre 10, quand Jésus dit, je le donne la vie, et personne ne les arrachera d'entre les mains. Le Père qui me les a donnés est plus fort que moi, et personne ne peut les arracher d'entre les mains du Seigneur. Il parle de ses brebis, de ses enfants, de son Église. En Jésus, nous avons la sécurité absolue et éternelle. Pierre dit, nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jésus garde les siens. Et il est loin au-dessus de toutes ces puissances qui risquent de nous attaquer. Il ne peut pas nous attaquer, à part la volonté de Jésus, parce que Jésus a cette autorité suprême. Et troisièmement, finalement sur ce point, Jésus prie pour nous. Il est notre grand sacrificateur. Il intercède pour son peuple et ses prières sont en fait efficaces. Et donc finalement, la dernière étape de la victoire de Jésus, c'est la bataille finale quand Jésus lui-même reviendra pour mettre fin définitive à toute rébellion, pour jeter le diable et les fausses méchancetés dans les temps de feu et pour sauver son peuple, pour qu'il soit avec lui pour toujours. Bon, on s'est dépêché un peu. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Je suis ici, vous savez, pendant la semaine. S'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas compris ou qui étaient trop rapides ou pas suffisamment claires, voyez, on me pose des questions. Souvent, quand je parle comme ceci, je dis aux gens, bon, s'il y a des questions, vous pouvez m'interrompre pendant le discours et je vais répondre, mais nous n'avons pas suffisamment de temps. Et je suis là pendant les moments de repas, les pauses, avant que le petit déjeuner arrive le matin et après la séance, je suis là pour répondre. S'il y a des questions, vous serez très content de discuter. Mais je vous demande de réfléchir sur ce que nous avons pour cet après-midi, parce que c'est fondamental. La réponse à nos craintes, que ce soit des esprits, des gris-gris, des sorciers, des jeteurs de sorts, de ceux qui maudissent, la réponse c'est en Christ. Il est la réponse. Et Jésus est notre vainqueur. Il est notre sauveur. Et nous avons la sécurité en lui. Donc que Dieu bénisse sa parole et nous allons prier avant de terminer. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce que notre Seigneur a fait pour nous. Nous te remercions pour ce grand sacrifice, un sacrifice qui dépasse notre compréhension. Celui qui était dans la sécurité de la gloire, celui qui est éternel, sans commencement, sans fin, mais qui a pris notre chair humaine, qui s'est humilié pour vivre avec nous dans un monde déchu, un monde de méchanceté, de saleté. Et il a vécu avec nous, il a péché, il a souffert, et finalement, il a donné son vie pour que nous soyons sauvés. Et pas sauvés seulement du péché, mais sauvés aussi des forces spirituelles de méchanceté qui voulaient nous faire du mal. Donc nous te remercions pour notre grand sauveur. Et nous te demandons seulement de renforcer notre foi pour que nos yeux soient fixés sur lui comme la grande réponse à tout ce qui peut nous faire craindre et même fuir la bataille, que nous puissions savoir qu'en notre sauveur, nous avons une défense suffisante pour toutes les difficultés. Nous avons celui qui va nous protéger et nous garder jusqu'à la fin. Et nous te remercions et nous te lions au nom du Seigneur Jésus. Amen.